nous retrouvons Corentin. Corentin, c'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je n'ai vraiment aucune idée de ce que je fais ici. Hein. Moi, d'habitude, je fais mes chroniques tranquilles le lundi soir sur l'inattendu. Et après un énième succès dans l'émission, un homme avec une grosse moustache, des lunettes rondes et une veste de bûcheron m'a accosté. Alors non, je ne vous parle pas du mec qui m'a parlé à la sortie du métro et qui m'a proposé de monter dans sa camionnette.
Absolument, oui.
Mais non, je vous parle de Serge, qui m'a demandé si je pouvais venir un peu parler de Chrétien de Troyes, sachant qu'il m'a dit ici que vous connaissiez pas trop. D'ailleurs, il m'a chargé de vous transmettre ses excuses pour lundi dernier, on a dû être évacué de la radio par sécurité, sa chronique dérange, hein. Mais ne vous inquiétez pas, il revient très vite. Donc c'est lui qui m'a dit de parler de cet auteur. Moi là-bas, je voulais parler du dernier Marc Lévy, mais à ce qui paraît, il est pas à la grecque celui-là. Non, à la place, il m'a dit de m'intéresser donc à Chrétien de Troyes. Alors en gros, si je devais vous résumer sa vie, je pourrais le faire avec... Oui, parce qu'on sait pas grand-chose. Hein. Bon, j'ai peut-être réussi à deviner sa ville de naissance. Après une longue enquête, ce serait peut-être Troyes. On sait aussi qu'il a commencé l'écriture en recopiant les textes de ses auteurs préférés, comme Ovid, par exemple. Et ouais, lui aussi, il a commencé avec le plagiat. Alors tout d'abord, avant de vous parler de l'intrigue, faut déjà savoir que ce livre se passe dans l'univers arthurien, celui du roi Arthur.
Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse.
Bah ouais, Arthur, le king, quoi. C'est peut-être l'un des mecs les plus connus, les plus respectés de l'histoire de la littérature. Puis bon, c'est le roi après tout, hein. Désolé, mais à côté de vos Julien Sorel, Jean Valjean et Franklin, ça vaut rien du tout. C'est un bon roi, toujours juste, aidé par Dieu, sa sœur, une fée, mi-humaine, mi-fée. Bon, peut-être un peu d'inceste avec celle-ci, mais bon, c'est pas très grave.
Faut pas pécho ta sœur, c'est pas très bon pour des enfants.
Ah oui, c'est vrai. Bon, finalement, le seul vrai point noir dans sa vie, c'est sa mort. Hein. Ouais, il est assassiné par son fils. Non, et puis là où Chrétien, il devient stylé, original, c'est à l'époque, les auteurs, ils centraient vraiment leurs romans arthuriens que sur les périodes de guerre. Et bien là, non. Chrétien de Troyes, lui, il va centrer ses livres sur 12 ans de paix. C'est ce qu'on appelle la Pax Arthuriana. Comme ça, il va pouvoir raconter ce qu'il veut sans risquer de contredire les autres auteurs.
Ma lynx, le lynx.
Bon, je vais pas vous parler des trucs que vous connaissez déjà, hein, tels que Excalibur, sa story avec Merlin, le triangle amoureux avec Guenièvre et Lancelot. Non, parce que le mec qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Yvain, le héros du roman Le Chevalier au Lion. Alors j'aurais pu vous faire comme Serge, faire une sorte de fiche de lecture, mais bon, j'ai pas le bagage intellectuel, ni vraiment la motivation, alors je vais plus vous raconter le début et comment moi je l'ai ressenti. Donc alors, pour poser les bases, Yvain c'est le mec le plus stylé de la table ronde. Il sait bien se battre, il est loyal, il est pas mal physiquement. Non, franchement, il a tout pour plaire. En plus, avec les meufs, il a aucun problème, il se permet même d'en recaler pas mal pendant l'intrigue. Des michetos là, qui veulent juste toucher son bouclier en or ou caresser son lion, parce que oui, il a un lion, mais on y reviendra plus tard. Alors au début, il est vraiment vénère, Yvain, parce qu'il a entendu l'histoire de son cousin Calogrenant, encore un nom à coucher dehors, ça, mais bon, c'est l'époque, hein, on n'a pas fini, tu trouveras jamais de Jean-Pierre, Michel, Bertrand ou Opsi. Non, bon, ça, c'est moi qui l'ai inventé, le dernier. Ah. Et en gros, Calogrenant s'est fait humilier à une fontaine par un chevalier très fort qui l'a défoncé après une tempête genre Katrina puissance 10 000. Alors voilà, il a du courage, Calogrenant, il raconte ça devant la reine et toute la clique des...
pervers narcissique.
Non, c'est les chevaliers de la table ronde, hein, c'est mieux. Et donc là, forcément, qu'eux, ils se la ramènent. Pour que tu comprennes que c'est le mec qui a un prénom encore plus dégueulasse, oui, mais qui surenchérit à toutes les histoires et qui permet même de se moquer. En soirée, c'est à peu près ce genre de mec, quand toi, tu dis que après 3-4 verres, ça tourne un peu, lui...
J'ai bu 1 million de shots.
Bon bref, Yvain, il veut venger son cousin. Et surtout, arriver avant tout le monde, pour montrer que c'est lui le plus fort. Et surtout, en mettre plein les yeux à que... Non, par contre, ça va vraiment pas le faire. Bref, il y va tranquillou avec, comme on dit, sa bite et son couteau. Et une fois arrivé comme prévu, il voit la fontaine. Il assiste à la tempête, sauf que, évidemment, il a pas son coupe-vent quechua et il galère. Et là, se ramène le fameux gardien de la fontaine, le chevalier qui a mis sa raclée à Calogrenant. Et là, donc, forcément, gros fight entre les deux. Ils sont tellement bons que le combat dure super longtemps. Bon, attention, hein. C'est pas genre la chanson de Guillaume, hein. On a le droit à... Ils se confrontèrent non-stop pendant 6 jours, 6 nuits. Ou encore, il arriva et tu as 20 000 hommes à lui tout seul. Non, ça dure un petit moment, mais tout d'un coup, Yvain perce la défense de son adversaire et... Non, il lui met un sale coup, donc le mec s'enfuit, Yvain le laisse pas s'échapper et le poursuit jusqu'à son château. Et là, la porte du château se referme sur lui et son cheval, se coupe en deux comme un steak.
Heureusement, il y a Fingus.
Donc là, notre Yvain est bien dans la merde. Il a plus de cheval, il est en territoire ennemi et sait même pas où est l'autre chevalier. Alors, il veut se cacher et là trouve aux lunettes.
Il est fou, Afelou, il est fou.
Mais non, pas du tout. Non, c'est une jeune femme, la servante de la reine. Et comme il s'était déjà croisé auparavant, il l'aurait sauvée, donc elle lui propose son aide. Bon, Chrétien, les facilités scénaristiques, merci beaucoup. Hein. Tu t'es cru dans les nouveaux Star Wars ou quoi? Bon, Il se cache et là, par la fenêtre, il voit le corps de son ennemi qu'il a affronté tout à l'heure, entouré de ses gardes. Et là, énorme effusion de sang. Bon, dans la littérature de l'époque, ça je vous apprends rien, ça veut dire que le meurtrier est encore dans les parages. Donc tout le monde part à sa recherche, et pour l'empaler, telle une merguez. Lunette, voyant que ça chauffe quand même, pour lui, lui donne une bague. Alors oui, une bague pour repousser une horde de mecs, c'est pas foufou, mais bon, tiens-toi bien parce que...
C'est pas n'importe quel balai, Harry!
Oui, c'est une bague d'invisibilité. Alors le subterfuge marche, mais Lunette reste prudente, hein, et lui dit bien de rester dans la chambre, et lui, il fait quoi? Il en fait qu'à sa tête. Et ouais, il se balade partout dans le château.
Et là, c'est le drame.
Ouais, coup de foudre avec la reine, hein, la veuve du mec qu'il vient juste de tuer. Alors c'est explicitement écrit dans le livre, mais on raconte qu'il lui aurait sorti la technique de drague ultime.
On va niquer ce soir!
Et qu'elle aurait craqué sur le champ. Donc bon, gros dilemme, hein, mais bon, au final, à force de bataille, et puis Yvain, c'est pas n'importe qui, hein, au final, il l'a conquis tranquille. Bon, tu connais l'histoire, ils vécurent heureux longtemps, jusqu'à ce que Arthur et sa team se ramènent pour voir si l'histoire de la fontaine est vraie. Que le mec très con dont je vous parlais au début, fier comme tout, veut se mesurer à lui. Sauf qu'entre-temps, c'est Yvain qui est devenu le gardien de la fontaine. Donc il arrive et se fait un malin plaisir de niquer... Oh, pardon. De bien le niquer... Bon, d'accord. Il lui fout bien sa misère et le ridiculus devant le roi et son crew. Résultat, il révèle son identité et tout le monde est content de le retrouver, surtout rassuré, presque un mois que le mec s'était pas connecté sur WhatsApp ou fait d'Insta Story. Bon bref, il invite tout ce petit monde à l'Enduc, le château de Sagonce, grosse fiesta le soir même, mais le lendemain, déchirement. Tiens Jean, tu peux mettre une petite musique triste ?
Pourvu que ça dure, la belle figure, les fêtes à Bayonne, les soirs sur la Garonne.
Non, tu comprends quand je te dis triste ou pas, moi je veux pas un hommage à Serge là, non. Bon, pas grave, on va faire sans. Bref, au moment des au revoir, Gauvin, son meilleur pote, lui propose de repartir avec lui pour faire le tout plein d'aventures. Sauf qu'Yvain, il est emmerdé, il a sa femme maintenant. Donc ouais, faut choisir, sa femme ou ses potes. Et ouais les gars, ça a beau être un chevalier et avoir vécu il y a très très longtemps, c'était déjà un... Et puis bon, en face on a Gauvin quoi. Gauvin c'est THE chevalier, avec Yvain, il forme la paire. C'est les Olive et Tom du sauvetage de jeunes filles en détresse. Ah et puis lui il en a rien à foutre hein, des meufs, hein. C'est la castagne avant tout pour lui. Les filles on verra après. C'est d'ailleurs pour ça qu'aucun auteur n'a voulu en faire un personnage principal dans une intrigue. L'aspect romanesque est presque impossible avec lui. Hein. Bah ouais, lui le romantisme ça va aussi bien que Chateaubriand et la joie de vivre. Et puis même genre hein, le petit déj joli par exemple, ça c'est un truc romantique, bah même ça il pourrait pas le faire. Sa force est au maximum quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire à midi. Donc penses-tu, faut qu'il aille se castagne dès le matin. Et donc là, donc ouais. Le dilemme, quoi. Les potes ou sa femme. Donc il est torturé, mais trouve le compromis parfait. Il décide de partir en vadrouille pendant un an, et après il reviendra pour se marier. La femme accepte en le suppliant de ne pas l'oublier.
Va folle la break.
La bête.
La best.
La baisse, la baisse.
La steak.
Et donc à partir de là, c'est le début d'aventures trépidantes sur le thème évidemment de la chevalerie. Donc le preux chevalier qui va aller sauver des jeunes filles en détresse, des pauvres royaumes menacés par des géants. Mais surtout, il va sauver un lion des griffes d'un serpent qui va devenir son compagnon de route et qui va même le sauver plusieurs fois. Donc dans ce roman, l'auteur va mêler comme à son habitude le courtois, le merveilleux et sera centré vraiment quasiment que sur Yvain. Hein. Vraiment l'idée de parcours individuel, car oui à l'époque le chevalier c'est l'homme exceptionnel, tout le monde le kiffe quoi, c'est le Johnny Hallyday de la chevalerie. Ça va donc être un roman sous forme de chronique hein, qui relate ses exploits au fil des aventures. Donc bref, si je devais conclure, hein, Le Chevalier au Lion, c'est le roman de chevalerie comme on aime. L'alliance de l'amour courtois, de la chevalerie. Alors oui, c'est vrai que niveau réflexion psychologique, morale philosophique, droit de la femme, on repassera, hein, mais pour moi, ça reste quand même un incontournable du genre. Donc maintenant, on va écouter Iron de Woodkid, hein, parce que premièrement, Woodkid, musicalement parlant, il est aujourd'hui aussi actif que Chrétien de Troyes, en fait, et, en littérature. Et quand bah, tu écoutes cette musique, tu as juste envie de saisir ton épée et d'enfourcher ton fidèle destrier.